terminer donc ce petit cycle par la communication. Nous avons auparavant parlé de l'écoute et de la compassion. Il aurait pu paraître plus logique que je passe de l'écoute à la communication ou de la communication à l'écoute. Mais j'ai préféré lier l'écoute à la compassion parce que, comme je vous l'avais dit dans le premier enseignement, écouter, c'est accepter de porter l'autre, puisque la parole, nous dit l'Écriture, est un fruit semblable à l'arbre, et donc elle laisse passer ce que la personne porte dans son cœur. Et donc, dans l'écoute, il y a un exercice de compassion au sens d'un amour qui assume, qui accepte de porter le poids des choses et qui en même temps peut consumer ce qu'il y a de négatif en vivant cette exercice jusqu'au bout dans la patience du Christ. C'est-à-dire aussi dans un esprit d'obéissance, d'abandon à Dieu qui est notre vraie force, notre vraie victoire sur le mal du péché. On sent comme ça qu'il y a des personnes qui ont besoin de parler parce qu'elles ont besoin de vider leur colère, par exemple. Elles cherchent un cœur qui écoute pour vider leur colère, mais elles n'arriveront à vider leur colère que si nous écoutons effectivement et avec une qualité d'accueil qui nous fasse participer à une œuvre de rédemption, c'est-à-dire toujours pour reprendre des expressions chères à Benoît XVI, cette image d'un amour qui assume et qui consume. Et donc, dans ce sens-là, j'insiste pour dire qu'il y a une fécondité propre à l'écoute, comme une manière de libérer l'autre de ce qui lui pèse, de ce qui l'encombre, et en définitive aussi de ce qui l'empêche de voir la lumière. Donc si nous avions de la sagesse, nous saurions vivre cet exercice de l'écoute sans être nécessairement inquiet de parler, puisqu'en réalité il peut suffire. Pour reprendre une expression de Jean-Paul II, on peut dire que le service de l'écoute s'inscrit dans notre vie comme étant essentiellement d'abord le service de la rédemption. En vous disant ça, je repense à ce que dit saint Paul à Timothée, puisque c'est sa fête aujourd'hui. Quand il dit « Le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais accueillant à tous. » Apte à enseigner, littéralement supportant la méchanceté, avec douceur, instruisant les opposants. On est apte à enseigner dans la mesure où on est capable de supporter la méchanceté. La Bible de Jérusalem a traduit « patient dans l'épreuve ». Mais voyez, littéralement, « supportant la méchanceté » nous dit quelque chose de ce service de la rédemption que nous rendons à l'autre pour qu'il puisse s'ouvrir à la lumière divine. Remarquez que le fait de supporter la méchanceté, de supporter la colère, de supporter la violence intérieure, si nous le vivons consciemment avec Jésus, est source de lumière pour l'autre dans la mesure où nous aidons Jésus à le purifier. Mais évidemment aussi, c'est purifiant pour nous-mêmes. Et ça nous ouvre aussi nous-mêmes à la lumière. Ad lucem per crucem. À la lumière par la croix. Donc nous pouvons, à partir de ce que nous avons vu, déjà dire que dans la communication, il y a un service de la rédemption qui peut être vécu en même temps qu'un autre service, et c'est de ça dont je voudrais parler plus particulièrement ce soir, qui est le service de la vérité. Nous sommes sauvés à la fois par la lumière et par la croix. Mais déjà, nous percevons qu'on ne peut pas séparer les deux. Et pour reprendre aussi des expressions familières à Jean-Paul II, des expressions qui, on peut dire, font partie de la tradition de l'Église, la vérité porte du fruit dans l'amour. Nous comprenons que la vérité que nous disons porte du fruit dans l'amour, dans la mesure où c'est cet amour qui dispose l'autre à accueillir la lumière. Le service de la rédemption comme consommation du péché, comme libération de ce qui aveugle l'autre. Il n'y a rien de plus aveuglant que l'orgueil, donc être dans l'humilité face à des gens qui sont plus dans un esprit d'orgueil, vivre jusqu'au bout l'humilité de l'écoute et la patience. Hein, il y a les deux dans l'écoute. Mais de penser que la vérité elle-même aussi sauve. Parce que l'homme est ainsi fait qu'il a besoin de connaître pour aimer. Je vous rappelle ce que dit saint Thomas d'Aquin dans sa réflexion sur l'amour. Il dit que l'amour a deux causes. La réalité elle-même, le bien, qui m'attire, mais aussi la connaissance du bien. Parce que c'est en connaissant le bien que je peux me laisser attirer par lui. Donc il faut penser qu'il y a dans le monde des personnes qui n'aiment pas Dieu parce qu'elles ne le connaissent pas. Parce que personne ne leur a révélé le vrai visage de Dieu. Et qu'elles ne pourront l'adorer en esprit et en vérité que si elles rencontrent des personnes qui communiquent la vérité de Dieu. Nous avons besoin de connaître le vrai visage de Dieu. Et nous avons besoin aussi de connaître sa sainte volonté pour marcher vers lui. C'est comme cela que le Concile introduit sa constitution sur la révélation en disant que Dieu, dans la révélation, révèle essentiellement deux choses, lui-même et sa volonté. Le service de la vérité que nous rendons aux autres, c'est essentiellement de dire Dieu à l'autre, de révéler le visage de Dieu qui est amour. Et de révéler en même temps sa volonté. C'est comme ça que nous nous accompagnons les uns les autres dans notre marche vers la vie éternelle. On pourrait dire que dans la communication, il y a à la fois cet aspect de s'accueillir l'un l'autre. En fait, on communique pour être en relation. Et en même temps qu'on s'accueille l'un l'autre, on se porte l'un l'autre, on se supporte l'un l'autre. Et on peut se libérer l'un l'autre en se déchargeant un peu l'un sur l'autre. Il y a bien des moments où chacun partage ce qu'il a vécu pour se décharger, l'autre partage à son tour. Et on se porte ainsi, porter le fardeau les uns des autres, dit saint Paul, et accomplissez ainsi la loi du Christ. Mais il y a un autre aspect de la communication qui est donc un service de la vérité, qui peut être un service mutuel, où on s'édifie l'un l'autre par la vérité, que l'on se communique. À ce moment-là, il n'y a pas simplement l'écoute, évidemment, il y a le fait de parler. Vous allez me dire qu'on communique de bien d'autres manières, il y a bien d'autres langages que le langage verbal. Mais je vais centrer mon propos sur la parole, en pensant que c'est l'exercice le plus délicat et en même temps le plus important, parce qu'il y a une force propre de la parole. Même si on vit dans un monde où la parole semble perdre beaucoup de sa force parce qu'il y a tant de paroles vaines qu'on pourrait perdre confiance en la puissance de la parole, en m'appuyant sur le magistère, et Benoît XVI reprend une pensée de Paul VI, comme quoi la parole reste le moyen privilégié pour communiquer la vérité. Elle a un poids et une force propre. Écoutez ce que dit l'Écriture. La langue est un membre minuscule et elle peut se glorifier de grandes choses. Jacques 3, 5. Et dans l'Écriture, la langue, elle est la parole, plus précisément, est comparée à un glaive ou une flèche capable de transpercer les cœurs. Ou alors comme une torche capable d'allumer le feu des passions chez l'autre. Comme un feu qui peut mettre l'incendie, qui peut se répandre. Et enfin, elle est aussi comparée comme une semence. On a planté quelque chose dans le cœur de l'autre et ça va germer et croître. Donc c'est vrai qu'on communique de multiples manières. Mais dans l'Écriture, on voit une insistance sur la puissance de la parole. je dirais qu'on communique le plus souvent à notre insu, au sens où ce que l'on pense se dégage, comme on dit, tu l'as pensé si fort, hein, mais c'est évident qu'il y a un rayonnement de la pensée, un rayonnement des sentiments, il y a quelque chose qui se dégage à travers le corps et qui fait que l'autre, par sa sensibilité, peut ressentir ce que je pense, même si je ne l'exprime pas verbalement. Je vous rappelle ce que dit Benoît XVI, hein, la vie des autres entre dans ma vie en ce que je pense, dit, fait, réalise. Et vice-versa, ma vie entre dans celle des autres, dans le mal comme dans le bien. Cette interaction, voyez, continuelle, que nous expérimentons entre nous. Mais dans la parole, c'est moi qui, librement, pose un acte qui va laisser passer ce que je porte en moi pour le communiquer à l'autre. Ce que je porte en moi, c'est-à-dire en fait la parole, est là pour servir la vérité. Elle n'est pas la vérité. Elle est l'instrument qui laisse passer la vérité. Parce que qu'est-ce que la vérité ? La vérité, ce n'est pas les mots. La vérité, c'est la conformation de mon intelligence à la réalité. Je suis dans la vérité quand je vois les choses telles qu'elles sont en profondeur, telles qu'elles sont dans leur vérité profonde. Quand je vois, pour reprendre une expression du Concile, le tréfonds de la réalité. Pour reprendre une expression de Benoît XVI, la substance et la valeur de la vérité, de la réalité. La substance et la valeur de la réalité. Ou pour reprendre une expression traditionnelle qui appartient plutôt à la tradition philosophique aristotélicienne, quand j'atteins la réalité intelligible, l'intelligibilité du réel. Et ici, on se heurte à deux difficultés. D'abord, le fait que nous ne soyons pas habitués à penser qu'il y a une vérité des choses. Disons que le monde moderne nous a déshabitués à penser qu'il y a une vérité des choses. Le monde moderne nous a plutôt habitués à penser que c'est nous qui créons la vérité des choses, qui donnons sens aux choses, et qu'elles ne possèdent pas en elles-mêmes un sens à découvrir. Donc cette idée finalement dans laquelle nous sommes, tous plus ou moins, par laquelle nous sommes tous plus ou moins contaminés puisque la pensée du monde entre dans notre pensée, en vertu de cette interaction, donc nous sommes tous les enfants de notre époque et nous sommes tous contaminés par ce subjectivisme qui fait que la vérité, c'est moi qui la crée. Au sens, encore une fois, où c'est moi qui donne un sens aux réalités selon l'orientation de ma vie, sans qu'il y ait un sens objectif, si j'ai pu dire, un sens réel, à découvrir. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire la dernière encyclique de Benoît XVI, mais par trois fois, il revient sur cette pensée que la vérité, elle ne se fabrique pas, mais elle se découvre. Je cherche à retrouver ce passage de l'encyclique de Benoît XVI qui parle de passivité. À propos de la recherche de la vérité, la vérité qui est un don plus grand que nous, dans tout processus cognitif en effet, c'est au numéro 34, la vérité n'est pas produite par nous, mais elle est toujours découverte, ou mieux, reçu. Dans un autre passage, au numéro 52, il dit « La vérité et l'amour que celle-ci fait entrevoir ne peuvent être fabriqués, ils peuvent seulement être accueillis. Leur source ultime n'est pas ni ne peut être l'homme, mais Dieu, c'est-à-dire celui qui est vérité et amour. » Ce principe est très important pour la société et pour le développement, dans la mesure où ni l'un ni l'autre ne peuvent être produits seulement par l'homme. Et pourquoi le monde se développe mal? Parce qu'il ne sait accueillir ni la vérité ni l'amour dont il a besoin pour avancer. Parce que l'homme a essentiellement besoin de lumière et de force pour vivre, de vérité et d'amour, et il a perdu le sens de l'amour et de la vérité comme étant d'abord un don de Dieu à accueillir. Et donc à partir du moment où la vérité notamment est conçue comme un produit de l'homme, quelque chose que je fabrique, on tombe fatalement dans le subjectivisme et le relativisme, c'est-à-dire chacun a sa vérité. Chacun voit les choses à sa manière. Mais il n'y a plus un dynamisme de recherche qui fait que on se mettrait ensemble on se réunirait ensemble pour rechercher ensemble cette vérité qui nous dépasse l'un et l'autre en tant qu'homme mais qui vient de Dieu écoutez Benoît XVI en aidant les hommes à aller au-delà de leurs opinions et de leurs sensations subjectives, la vérité leur permet de dépasser les déterminismes culturels et historiques et de se rencontrer dans la reconnaissance de la substance et de la valeur des choses. C'est-à-dire, je communique, je parle avec quelqu'un, je dialogue. C'est pourquoi ? C'est pour arriver à atteindre une vérité qui n'est ni la sienne ni la mienne, mais la vérité même des choses et qui vient de Dieu. C'est parce qu'il y a une vérité réelle, si je puis dire, une vérité objective, une vérité, disons, une vérité inscrite dans la réalité elle-même, que ça vaut la peine de dialoguer. Sinon, chacun, encore une fois, a sa vérité, qui est son produit. Et nous sommes tous donc conditionnés par notre culture notre parcours personnel. Et donc à ce moment-là, pour reprendre une autre expression de Benoît XVI, notre vie, c'est des îlots de pensées et de sentiments qui n'arrivent jamais vraiment à se rencontrer puisque chacun est enfermé dans son monde, dans sa vision propre. Voyez, actuellement, une difficulté dans la communication, c'est tout simplement de croire que la vérité existe. Qu'il y a bien une vérité. Quelle est la part de vérité, entre guillemets, du relativisme? Benoît XVI aime parler d'une dictature du relativisme qui paralyse l'exercice de l'intelligence. La part de vérité, c'est que l'expression de la vérité avec les mots humains sera toujours inférieure, ne sera jamais vraiment à la hauteur de la vérité des choses. Mais ça ne veut pas dire que je ne puisse pas percevoir vraiment cette vérité des choses. Ça veut dire qu'entre ma perception et ce que j'exprime, il y a les limites du langage humain. C'est les limites des mots. Des mots qu'on a comparés souvent comme un filet qu'on jette sur la réalité. On jetterait son filet sur la réalité et le filet a des mailles qui ne correspondent pas, qui sont trop grosses, qui ne sont pas assez fines. Pour dire vraiment le réel. Mais c'est ici qu'il faut distinguer l'expression, en réalité, cette vision en termes de projection sur le réel, que l'intelligence ne ferait que projeter des mots, des concepts, elle arraisonnerait le réel, arraisonner, c'est-à-dire réduire au concept la réalité, et pas tout à fait juste, vous voyez, au sens, pas juste, au sens où mon intelligence, au-delà des mots et des limites des mots, est capable de toucher le réel. Voyez, il y a deux problèmes. D'abord, la vérité des choses. Et deuxième problème, la capacité qu'a l'intelligence de voir cette vérité. Ici, ce qui est en jeu, c'est le réalisme de l'intelligence. Pensez à tous ces moments où on parle avec quelqu'un et on lui dit « Mais est-ce que tu vois ce que je dis ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ?» C'est spontanément qu'on fait appel au réalisme de l'intelligence. Est-ce que tu vois ? L'intelligence comme l'œil de l'âme, pour reprendre une expression chère au Père de l'Église. Si on va jusqu'au bout de cette vision, qui est la vision vraiment traditionnelle de l'Église par rapport à l'intelligence humaine, on est amené à affirmer, comme l'a fait saint Thomas d'Aquin, que toute vérité prononcée par quiconque provient de l'Esprit-Saint. Toute vérité connue par quiconque est entièrement due à cette lumière qui brille dans les ténèbres. J'ai mis personnellement du temps à arriver à penser que toute vérité était finalement l'effet de la lumière divine, de l'Esprit Saint, de l'action de l'Esprit Saint. Et comment nous pouvons comprendre que toute vérité provient non pas de nous, n'est pas notre produit, mais provient de l'Esprit-Saint? Précisément en prenant au sérieux cette image de l'intelligence comme l'œil de l'âme. L'œil, il a une capacité propre, une capacité qu'il possède de voir. L'homme a une intelligence qui est son intelligence humaine, donc il est capable de voir. Mais tout comme l'œil du corps, tout en étant capable de voir, il ne voit rien s'il n'y a pas la lumière. Et la lumière qui permet à l'intelligence de toucher le réel dans le tréfonds, c'est-à-dire le tréfonds du réel, c'est-à-dire dans sa vérité profonde, cette lumière, c'est celle de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que il n'y a que les croyants qui connaissent la vérité. Parce que sur les traces du Père de l'Église, comme l'a rappelé Jean-Paul II, saint Thomas d'Aquin peut considérer qu'aucun esprit n'est aussi ténébreux qu'il ne puisse participer en rien à la lumière divine. Dieu est lumière et cette lumière éclaire tout homme. De telle manière qu'il puisse connaître son Créateur et connaître sa volonté et être ainsi sauvé. Connaître Dieu, connaître sa volonté, c'est la sagesse. L'homme est sauvé par la sagesse. Il est sauvé par la croix qui purifie son esprit du péché qui l'aveugle et l'empêche d'accueillir la lumière divine. Et en même temps, il est sauvé radicalement par la lumière, sauvé par la lumière, qui lui permet donc de voir le vrai visage de Dieu et sa volonté, et ainsi de marcher vers Dieu. Quand je parle avec quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vivre ce dialogue dans la confiance que ce que je perçois réellement, ce que Dieu me donne de voir avec l'œil de l'âme qui est mon intelligence, peut quelque chose de cette vision peut-être communiquer à l'autre à travers mes mots. Le but de la communication comme service de la vérité, c'est de rendre possible, ça paraît à peine croyable, que ce que je vois, que ma vision, cette grâce qui m'est donnée finalement, c'est reçue par Dieu, cette perception que je porte en moi, il y a quelque chose de cette perception que je puisse aider l'autre à rentrer dans cette perception. Mais ici, il faut se rappeler que tout ce qui est reçu selon le mode de celui qui reçoit, c'est-à-dire verser de l'eau dans un verre, l'eau va prendre la forme du verre et aussi selon les capacités du verre, s'il est petit ou grand. Et donc, quand je communique pour, si je puis dire, entraîner l'autre dans la lumière, dans une vision qui m'est donnée, laisser passer la lumière, lui ouvrir son esprit à une vérité qui m'est donnée de voir, une vérité des choses. Et il la recevra, cette vérité, pour autant qu'il en est capable. pour autant qu'il en a la capacité. À l'image de ce que dit le livre de l'Exode, au chapitre 16, hein, sur la manne que chacun recueillait selon son appétit, selon ce qu'il pouvait manger. L'homme se nourrit de vérité et donc quand je parle à l'autre, je sais que la vérité que je porte en moi, il va pouvoir s'en nourrir pour autant que son esprit est suffisamment, enfin, selon l'ouverture de son esprit à la lumière, selon le moment où il en est de son chemin d'ouverture à la vérité. Mais voyez, à travers tous les mots que je peux dire, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est que la personne finisse par percevoir réellement quelque chose. Parce que si elle adhère aux mots sans voir, si j'arrive à la convaincre logiquement, et qu'en fait elle n'a rien vu, elle ne voit rien, comme on dit, ça rentre par une oreille, ça sort par une autre, ou ça reste comme des idées, mais ce n'est pas ça qui fait vivre. Ce qui fait vivre, c'est ce qu'on perçoit vraiment. C'est l'intelligence, au sens fort du terme, l'intelligence des choses, l'intelligence du réel, qui me permet d'avancer. C'est ma vision en profondeur des choses qui me fait vivre. Et donc, vous voyez qu'on peut, dans la communication, se tromper de but. Convaincre intellectuellement quelqu'un par la force de la logique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les personnes qui ressortent d'une conversation en trouvant ça très beau, très logique, très bien, elles ont suivi tout un enseignement, elles sont très satisfaites au niveau rationnel, tout est bien huilé, mais en fait, comme on dit, elles ne retiennent rien parce qu'elles n'ont pas perçu vraiment de vérité. Elles sont restées dans le savoir, dans la connaissance notionnelle. Marquez, il y a des gens qui se gavent de savoir, hein, qui sont toujours, comme dit saint Paul, à se cultiver, quelle expression il dit, toujours à s'instruire sans jamais parvenir à la vérité. Oui, c'est ça. Il parle de ceux qui s'introduisent dans les maisons et envoûtent des femmelettes chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de passions et qui, toujours à s'instruire, ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. Benoît XVI n'a pas hésité à Paris, lors de son premier voyage en France, donc à Paris, de parler de l'idolâtrie du savoir. Nous vivons dans une société qui exalte le savoir, ayant perdu le sens du voir. Moi, j'aime bien dire voir ou savoir, il faut choisir. On ne peut pas se délecter dans le monde des idées et en même temps trouver sa joie dans la vision elle-même. Quand je dis vision, vous voyez, j'avais envie de dire contemplation. En fait, contempler, c'est voir. Hein. Bon. Mais je préfère dire vision parce que ça ne prend pas nécessairement une forme contemplative au sens stricte du terme. Rappelez-vous ce que dit saint Thomas d'Aquin, il n'y a aucun esprit aussi ténébreux qui ne soit capable d'une certaine vérité, parce que la lumière pénètre, elle pénètre malgré tout dans l'esprit humain. Tant qu'il est sur terre, le démon, lui, n'est que mensonge. Il sait des choses, mais il ne voit rien. Mais tant qu'on est sur terre, il y a toujours une part de vision, malgré tout, qui est donnée. Parce qu'il n'y a pas une fermeture totale, totale à Dieu qui est lumière. Et je dis simplement que notre esprit n'est vraiment rassasié que quand il voit vraiment les choses. Je ne sais pas comment vous dire mieux ni plus, mais j'ai mis tellement de temps, moi, à sortir de l'idéalisme pour entrer dans un chemin de réalisme. Parce que, étant adolescent, je me gavais de lecture. Mais quand on commence à rentrer dans ce réalisme de l'intelligence, on sent bien que le monde des idées, des représentations, des images, des concepts, peut être un piège, voyez, pour l'intelligence, dans la mesure où c'est un petit trésor qu'on porte en soi et dans lequel on peut se complaire parce qu'on peut le posséder, alors que la vision elle-même, évidemment, ne se possède pas. Ce qui m'est donné de voir dans le moment présent, peut-être que demain, je ne serai plus dans cette vision. Quelque part, la vision est inscrite en moi, c'est vrai, mais je n'ai pas un pouvoir sur elle comme j'ai pouvoir sur une idée que j'ai mémorisée. Entrer dans le réalisme de l'intelligence, c'est entrer aussi dans une acceptation d'une pauvreté, voyez, de l'esprit qui dépend radicalement de la lumière divine. Quand je parle à l'autre, à vrai dire, je ne sais pas ce que Dieu veut lui faire voir. Je ne sais pas ce qu'il est en train d'entreapercevoir. Je ne sais pas ce qu'il a besoin de voir. En fait, c'est une mission impossible de communiquer. Il y a ce que mon intelligence voit dans le moment où j'en suis de ma vie, de mon chemin vers Dieu. Et puis il y a ce que l'autre, qui est sur un tout autre chemin, est en train de voir, et qu'il a peut-être du mal à aller jusqu'au bout de cette vision. Et voilà que c'est deux personnes qui sont chacun conduits, qui ont toute un parcours de vie, traverser des épreuves très différentes, qui se rencontrent et parlent. Qu'est-ce que ça peut donner? Deux îlots de pensées et de sentiments fermés sur eux-mêmes, qui se cognent, si je puis dire, mais qui n'arrivent pas vraiment à communiquer. Chacun enfermé dans son mental, en fait semblant de comprendre, en fait on ne voit pas ce que l'autre voit. On reste enfermé si on était enfermé dans ce qu'on voit, mais plus souvent on est enfermé dans ses idées, on n'est pas enfermé dans ce qu'on voit, on est plutôt enfermé dans ses idées, hein, dans son petit monde, et on parle. En réalité, la communication, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance que s'il y a Dieu entre les deux, qui se sert de l'un pour l'autre. De quelle manière je peux être utile à l'autre? Je dirais de deux manières. La première manière, c'est que de fait, par la force de ma vision, parce que Dieu me donne de percevoir avec une lumière intense quelque chose de la vérité, de la vérité des choses, et qu'il m'ait donné aussi, par la grâce de l'Esprit-Saint, non seulement de le voir, mais de l'exprimer, exprimant en termes spirituels les réalités spirituelles, comme dit saint Paul. À ce moment-là, j'ai besoin des dons de l'Esprit-Saint. Pour faire que dans ma parole, je sois parfaitement docile, que je trouve vraiment les mots tout à fait ajustés que l'autre a besoin d'entendre, et qui exprime d'une manière tout à fait fidèle la vision que Dieu me donne de voir, l'homme qui dit la vérité de son cœur. Une parole qui vient directement du cœur. À ce moment-là, si j'ai une parole qui est vraiment inspirée de l'intérieur et, si je puis dire, de l'extérieur dans son expression, étant fidèle, parfaitement fidèle à la vision de Dieu, une telle parole est de fait comme une flèche qui peut transpercer le cœur de l'autre. Des paroles comme ça, si on en prononçait une par jour, ce serait vraiment merveilleux. Des paroles qui touchent, qui transpercent. Une par jour serait beaucoup, oui. Mais on voit bien, pensez au nombre d'homélies qui n'ont laissé aucun souvenir dans votre esprit. Hein. Et par contre, l'homélie de l'année où il y a eu une parole que vous gardez dans votre cœur, qui a été plantée dans votre cœur comme une flèche, bon, l'Esprit Saint qui était là, et qui vous a ouvert un univers. Pour vous dire, par exemple, un exemple de cette personne que j'avais rencontrée à l'Hôtel Dieu qui avait rencontré une religieuse, je la raconte à chaque fois, mais je ne me lasse pas, une religieuse dans un aéroport en Inde, et elle lui avait demandé de garder ses bagages parce qu'elle devait faire rapidement une course dans l'aéroport. La religieuse a accepté, puis quand elle est revenue, la religieuse lui a dit lui a posé une question par rapport. Elle sentait que la personne souffrait, elle lui a posé une question et puis elle s'est confiée à la religieuse qui lui a dit une parole sur la prière, puisqu'elle n'était pas croyante, qu'elle ne priait pas. Elle lui a dit : Dites, Dieu de mon cœur, je vous aime. Et la personne, ces paroles de Mère Teresa, plusieurs années après, elle m'a dit, c'était Mère Teresa la religieuse, elle m'a dit, plusieurs années après, ça continue à me faire vivre. Ça m'ouvre des perspectives. D'année en année, ça continuait à ouvrir son esprit à la lumière. Voilà. Donc, je peux réellement ouvrir une brèche dans un esprit jusqu'ici qui ne voit pas, ouvrir une brèche parce que je perçois très très fort quelque chose et que je le dis au moment de Dieu, à l'heure de Dieu, et ça pénètre, la flèche. C'est à peine croyable, mais c'est possible avec l'Esprit Saint. Il y a une deuxième manière dont je peux réellement rendre le service de la vérité dans le dialogue, c'est que Dieu me donne, ça passe toujours par l'écoute, mais voyez, dans le cas de Mère Teresa, c'est passé par un exercice de patience. Elle a accepté de patienter, d'attendre cette personne. Elle a dû prier pour elle pendant qu'elle gardait ses bagages. Et puis la parole est sortie aussi avec la force de la croix. Donc, il y a une deuxième manière dont je peux rendre le service de la vérité. C'est la personne est déjà dans une vision, une certaine vision intérieure. Elle est déjà ouverte à la lumière, mais elle n'arrive pas à saisir pleinement ce qu'elle voit, et Dieu va m'inspirer de dire des choses qui rejoignent ce qu'elle est en train de voir. À ce moment-là, la personne va accueillir totalement ce que je dis, parce que ça mettra des mots sur ce qu'elle, sur une vérité qu'elle était déjà, auquel elle avait déjà accès quelque part, mais sans pouvoir conceptualiser. C'est ici que faut préciser une chose, c'est que l'intelligence humaine est ainsi faite que dans sa vision de la vérité des choses, pour saisir pleinement ce qu'elle voit, si je puis dire, elle a besoin des mots, même si ces mots en même temps ne sont jamais, ne peuvent jamais exprimer totalement ce qui est donné de voir. Mais malgré tout, il y a un besoin de conceptualiser. Saint Thomas d'Aquin en parle en disant que c'est une limite de l'intelligence humaine. Dieu voit sans mots. Le langage de Dieu, c'est le silence. Mais nous, notre intelligence humaine, elle a besoin de passer par les mots pour accéder pleinement à ce qu'elle voit. Et donc, quand je dis des mots à la personne, des mots qu'elle a besoin d'entendre pour être confirmée et renforcée dans sa vision. Le plus souvent, quand on dit ce qu'elle m'a dit m'a touché, c'est parce que j'étais déjà dans ce qu'elle me disait à la personne. Vous voyez, par contre, quand le livre des Actes des Apôtres, il est question de la première prédication où Saint Paul dit, où Saint Pierre dit donc devant toute la foule rassemblée, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous, vous avez crucifié. Il dit une vérité qu'il voit, qu'il contemple, animée par l'Esprit Saint qu'il vient de recevoir. Il a dit avec une force extraordinaire, et d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Et il dira à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Ici, ils n'ont pas été confirmés dans quelque chose qu'ils voyaient. Mais ils ont été ouverts à une vérité auquel jusqu'ici, ils étaient complètement étrangers. Il y a les deux aspects. Évidemment, c'est plus facile de confirmer l'autre, simplement, et le plus souvent, c'est déjà pas mal, de le rejoindre dans ce qu'il voit, commence à voir, et de l'aider à le voir un peu mieux. Mais quelquefois, Dieu peut nous donner une parole qui est pas du tout dans son sens, si je puis dire, hein, et qui va le transpercer avec une audace prophétique, on dit une parole qui sort comme ça, mais ça, c'est pour qu'il y ait cette efficacité divine, parce que c'est une œuvre divine que de servir, je dirais, l'ouverture de l'esprit d'une autre personne à la lumière divine, à la vision de la vérité, ça nous dépasse complètement. Penser qu'on va mettre les gens dans le vrai en leur expliquant les choses avec nos petits raisonnements, mais c'est complètement... C'est d'une naïveté incroyable et pourtant ça nous arrive tous les jours de tomber dans cette illusion. C'est le problème tout simplement que la vérité c'est quelque chose qui est reçu passivement par l'esprit dans la mesure où il s'ouvre à la lumière divine. Et c'est quelque chose qui est opéré par Dieu, ça nous dépasse complètement. En fait, dans la manière dont on parle et on discute quelquefois de manière, vous voyez, un petit peu comme ça, en s'appuyant sur le raisonnement un peu polémique et tout ça, on fait violence à l'esprit de l'autre. On voudrait comme de force lui faire voir ce que Dieu seul peut lui faire voir. On est complètement impuissant par rapport à ce qui est à l'origine de la vérité, c'est-à-dire cette illumination de l'esprit, de l'œil, de l'âme, qui, par la lumière divine, auquel il est donné, enfin, de voir la vraie vérité, si je puis dire, la vérité des choses, c'est-à-dire la valeur et le sens que Dieu leur a donné, leur donne. Quand on est vraiment pénétré de cela, je dirais, ça nous guérit beaucoup au niveau du besoin de parler, quoi. On perd la foi pas en la parole, mais en nos paroles humaines et surtout en nos explications. Cela dit, l'esprit humain est ainsi fait qu'il a besoin à la fois de mots et aussi, si je puis dire, il a besoin d'être accompagné et satisfait aussi dans son besoin de logique. Donc la logique en soi n'est pas mauvaise, évidemment. Elle est là pour satisfaire une exigence de la raison humaine, hein, qui fait que la vérité que je vois, si je peux l'exprimer logiquement, ben ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal. Je ne suis pas contre. Mais ce qui est illusion, c'est de s'appuyer sur la logique comme si c'était l'arme, la puissance qui allait convaincre. Alors que la vraie conviction, c'est quand je vois. Ce n'est pas quand je me retrouve lié par le raisonnement de l'autre. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de réfléchir sur les enseignements de Jésus, la manière dont il enseigne. Prendre le sermon sur la montagne, la manière dont il communique. Je prends un exemple. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Ça, c'est Matthieu 6, 22. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre ? Ici, nous avons un passage, voyez, où Jésus dit les choses d'une manière ordonnée, avec une certaine logique. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à aucun moment, Jésus se perd dans des explications. Il dit la vérité profonde, les choses s'enchaînent, on sent qu'il y a une cohérence. En même temps, ça n'a rien à voir avec une sorte de tentative d'explication rationnelle. Il déploie une vision, clairement. Mais il la déploie de la manière la plus logique, sans rester enfermé dans la logique. Je n'ai pas choisi cet exemple pour rien. Quand Jésus dit la lampe du corps, c'est l'œil, ici l'œil a pu être compris comme étant l'intelligence ou la conscience, puisque je vous ai dit que l'intelligence c'était l'œil de l'âme, mais cet œil de l'âme est en même temps, dans la tradition de l'Église, a été compris en même temps comme l'œil de l'intention. C'est-à-dire l'œil, ce n'est pas simplement l'intelligence, mais c'est aussi ce vers quoi je regarde. Quand je marche, je regarde vers un but. Ce n'est pas simplement que je vois, mais je regarde vers, je suis tourné vers. J'ai l'œil tourné vers. Et si ce n'est plus l'intelligence, mais c'est le cœur. Donc, si ton œil est sain, littéralement en grec est simple, ton corps tout entier sera lumineux. Ici, nous comprenons que l'œil de l'intelligence dépend de l'œil du cœur. C'est-à-dire que pour que l'œil de mon intelligence soit ouvert à la lumière, soit lumineux, je fais une parenthèse, je n'ai jamais rencontré un regard aussi lumineux que celui du cardinal Ratzinger que j'avais rencontré il y a une quinzaine d'années sur la place Saint-Pierre. Pour que l'œil de notre intelligence soit lumineux, il faut que l'œil de notre cœur soit simple, c'est-à-dire tourné purement et simplement vers Dieu. C'est pour ça qu'en Siracide 51, il est dit que le Siracide dit qu'il a trouvé la sagesse dans la pureté. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ce n'est pas le cœur qui voit, c'est l'intelligence. Mais l'intelligence voit Dieu et elle voit tout dans la lumière de Dieu, dans la mesure où le cœur est tourné vers Dieu. Parce que le cœur n'est pas entièrement tourné vers Dieu, la personne a du mal à voir. Et dans le dialogue, je peux, vous voyez, par la qualité de mon écoute, par mon humilité et ma patience, parce que j'accepte de porter quelque chose qui est lié donc au cœur de l'autre, qui n'est pas, au moment où il parle, peut-être bien tourné vers Dieu, je peux l'aider à se tourner vers Dieu. Ça, c'est le service de la rédemption, de la purification du cœur. Si moi-même je suis vraiment tourné vers Dieu, par la pureté, par ma pureté, la pureté de mon cœur et de mon attitude, je peux l'aider à se remettre devant Dieu, dans l'axe. Et vous voyez ici comment le service de la rédemption comme purification du cœur est intimement lié au service de la vérité. Dans la mesure donc où en aidant la personne à se purifier dans son cœur, je l'aide à s'ouvrir à la lumière divine. Ce n'est pas en m'énervant parce qu'elle ne comprend pas mes explications. Alors que ce que je lui dis est parfaitement logique. Ce n'est pas en m'impatientant parce qu'elle est aveuglée ou parce que... Non, vous voyez ?
Les choses se décident au niveau du fruit d'un dialogue, se décide à une profondeur qui nous échappe le plus souvent, mais qui dépend essentiellement des dispositions de notre cœur et en même temps de la force de ma perception intérieure et de ma fidélité à cette perception. Je vous le dis, je reviens sur cette idée, le dialogue, ça a un sens s'il y a Dieu entre les deux. Si deux ou trois sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis là présent au milieu d'eux. Le Christ est présent comme celui qui doit diriger le dialogue. Et il dirige le dialogue en quoi? En donnant à l'un de voir quelque chose et de l'exprimer qui puisse aider l'autre dans sa recherche, dans son chemin vers la vérité. Donc, il faut avoir confiance que, en fait, si la lumière vient de Dieu, Dieu va me donner, dans mon dialogue avec l'autre, si je suis très à l'écoute de Dieu, si je suis dans un état d'abandon et si je garde mon cœur tourné vers Dieu, si je ne m'appuie pas sur mes propres forces et ma puissance de frappe logique, de dialecticien, mais si je reste dans simplement pauvre esprit dépendant de la lumière divine, que je reste à l'écoute de cette lumière divine, enfin dans la réceptivité, ben il faut penser que Dieu me donnera les lumières dont l'autre a besoin. Sa lumière vient de lui. Donc à ce moment-là, si je puis dire dans la foi, je peux dire la vérité de mon cœur. Même si je vois pas bien en quoi ça peut aider l'autre. Être purement et simplement fidèle à la vérité que je porte en moi, dans le moment présent, pour l'autre, en m'exerçant d'abord à la charité qui porte, à la charité qui écoute, à la charité qui purifie, qui supporte tout, endure tout et sauve tout. Et dans cet exercice de la charité, je m'ouvre à la lumière divine et je me rends disponible pour dire la parole qui sauve aussi, la parole qui sauve, qui sera parfaitement adaptée à ce que l'autre a besoin d'entendre. Et si on voit rien, on dit rien. Si on voit rien, c'est que c'est le moment de persévérer dans l'écoute, tout simplement. Ou que la personne, c'est pas le moment de d'une parole, ça viendra, sera donné par un autre instrument.
Ne pas chercher à, comment dire, à dire à l'autre ce qu'il doit faire, mais l'aider à voir ce qu'il doit faire. Et pour l'aider à voir ce qu'il doit faire, ici je me situe au niveau pratique. Voyez, nous nous faisons très souvent piéger par le goût qu'on a à donner des conseils. Ça dépend un peu des personnes, mais d'une manière générale, il y a beaucoup de gens qui aiment donner des conseils. Or, la personne, elle a une conscience qui est un œil, qui est une intelligence pratique, qui dépend donc de l'état de son cœur. Et Dieu veut éclairer sa conscience de telle manière qu'elle voit elle-même ce qu'elle a à faire. Et donc, quand une personne me demande conseil sur ce qu'elle doit faire, le gros piège, c'est de vouloir répondre tout de suite en trouvant une solution pratique, sans croire suffisamment à la dignité de la conscience humaine qui fait que Dieu nous a créés de telle manière que chacun puisse juger par lui-même de ce qu'il doit faire. nous a fait don à chacun d'une conscience pour que chacun puisse agir selon sa conscience, selon l'œil de la conscience. Et cet œil est tout comme l'intelligence spéculative, en tant qu'intelligence pratique, cet œil de la conscience, encore une fois, est un œil qui a besoin de lumière pour voir. Et donc, nous pouvons lui donner cette lumière, comme je l'ai dit précédemment, par tout cet exercice de l'écoute, de la patience. Et aussi par la force de notre parole, qui dépend de la force de notre vision. Mais pourquoi j'insiste sur l'aspect de la conscience? Parce que la conscience, elle a besoin essentiellement d'être éclairée par la loi morale. Et donc, il y a un commandement de Dieu, il y a une parole de l'Écriture qui dit la volonté de Dieu, par exemple, ne jugez pas, ou par exemple, supportez-vous les uns les autres avec humilité, douceur et patience. Ou par exemple, soyez en paix les uns avec les autres. Il y a de multiples paroles qui sont là pour éclairer la conscience, qui sont là pour éclairer notre intelligence en tant qu'elle est faite pour voir ce qu'il faut faire. Dans la mesure où je suis vraiment pénétrer de la vérité d'un commandement, dans la mesure où ça suppose que je le vive aussi. Je m'exerce, où Dieu m'a donné, avant de rencontrer une personne, de m'appliquer à suivre tout particulièrement ce commandement. Je le vois. Je le vis, je le vois. Et il éclaire mon intelligence. À ce moment-là, je peux le dire à l'autre. Je peux le dire en vérité. C'est pas je ne lui fais pas la morale. Je dis ce que mon cœur voit. Avec la force de la cohérence de la vie. À ce moment-là, de fait, la conscience de l'autre peut être touchée, éclairée en profondeur, et la personne changer de manière de voir ce qu'elle doit faire. C'est un vrai miracle, hein, d'éclairer une conscience, de faire que la personne qui... Je me souviens d'une rencontre avec quelqu'un qui est venu me voir en disant qu'il avait deux projets, de tuer sa femme qui venait de divorcer et de se tuer lui-même. Bon, c'était son projet. S'il avait accepté, poussé par un ami, de voir un prêtre, c'est qu'il n'était pas entièrement décidé, mais c'était sa manière de voir. Il ne voyait pas d'autre solution à sa souffrance que dans ces deux actions concrètes. Ça ne sert à rien de dire à la personne c'est pas bien de tuer sa femme, et de se tuer soi-même. Ce qu'il avait besoin d'entendre, c'est un commandement qui éclaire en profondeur sa conscience, de telle manière qu'il puisse voir lui-même que ce n'était pas bien de tuer et sa femme et lui-même. Parce que tuer sa femme et se tuer lui-même, c'était la conséquence d'une vision en profondeur fausse de la vie et de son chemin. Donc il avait besoin d'abord d'être remis par une parole dans l'axe Et ensuite, le reste s'écroulerait de lui-même. C'est ce qui s'est passé après une heure de conversation et de prière. Mais à aucun moment, je ne lui ai dit, c'est pas bien de tuer sa femme, même si je le pensais. Mais la question n'était pas là. Je sentais que la question n'était pas là. Je n'allais pas lui communiquer une force en lui faisant la morale, parce que ça aurait été lui faire la morale. Non, je lui communiquais une force en éclairant à un niveau en amont sa conscience de telle manière qu'il puisse lui-même voir la fausseté de sa vision. En fait, il me revient ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, il m'est revenu une parole de l'Écriture, parce qu'en fait, Dieu nous donne toutes les paroles pour toutes les situations de vie. Et je lui ai cité saint Paul, nous ne combattons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre le démon. Et je lui ai dit, vous vous trompez d'adversaire. J'ai pas, vous voyez, situé la parole au niveau du bien, pas bien, mais plutôt du vrai et faux, c'est-à-dire il y a une erreur de tir au départ. Et en fait, je lui ai dit ça très vite dans la conversation, parce que je l'ai perçu dans mon cœur que il y avait un problème avec le malin qui était là. Et à la fin, il m'a redit, c'est vrai, je me suis trompé d'adversaire. Donc c'est ce qu'il avait perçu. Donc comme il avait perçu qu'il s'était trompé d'adversaire, il n'allait plus tuer sa femme parce que c'était plus son adversaire. C'était son adversaire. Il le voyait maintenant, c'était le démon. Donc Je dis qu'il faut, dans notre dialogue avec l'autre, respecter sa dignité d'esprit, c'est-à-dire d'esprit doué d'une conscience, c'est-à-dire l'aider à voir ce qu'il doit voir lui-même et pas lui imposer un « il faut que » ou « tu dois faire ». Mais vraiment éclairer la conscience. Mais évidemment, en même temps que je lui ai dit qu'il se trompait d'adversaire, je me suis efforcé de le remettre en me remettant moi-même devant le royaume de Dieu, de telle manière que son cœur, l'œil de son cœur se tourne vers les réalités. Les réalités essentielles, en l'aidant à voir ce qu'il voulait vraiment.
Comme en fait c'était quelqu'un au cœur tendre, pas de mauvaise volonté, j'ai pas eu trop de difficultés à le remettre devant l'unique nécessaire, l'essentiel de sa vie. Bon. Et l'un dans l'autre, si je puis dire, il a progressivement renoncé à son projet de lui-même. Il faut attaquer à la racine. Il y a deux. L'homme, il a un cœur pour aimer et un esprit pour voir. Un cœur pour se tourner vers, un cœur capable d'une intention, une intention qui est bonne parce qu'elle est tournée vers Dieu, ou alors une intention qui est mauvaise parce qu'elle est tournée sur lui-même. Je parle de l'intention profonde qui est à l'origine de toute notre action. C'est cette intention profonde qu'il faut rejoindre en réveillant notre propre intention à nous-mêmes. C'est-à-dire, là aussi, on peut entraîner l'autre. La mesure où moi-même je regarde vers Dieu, je suis tourné vers Dieu, je peux aider l'autre à se tourner vers Dieu. Dans la mesure où je suis ouvert à une vérité, que je la vois, je peux aider aussi l'autre à voir. Il faut rester, voyez, dans ce qui est à la racine de l'action humaine, c'est-à-dire à la fois le cœur qui aime, qui se tourne vers, et l'esprit qui voit. Et de là naît la pensée juste. Mais il ne faut pas penser à la place de l'autre, voilà. Il ne faut pas lui imposer nos pensées. Des pensées toutes faites, si je puis dire. Voilà, si à ta place, je ferais ceci. Écoute mon conseil, moi j'ai déjà connu une situation semblable, tu ferais bien de... Non, on se rend compte que enfin, il y a des exceptions, hein. Il peut y avoir Dieu peut quelquefois nous inspirer tout à fait la chose, mais d'une manière générale, on est à côté de la plaque parce que c'est pas ça que Dieu nous demande. Donc, je rencontre quelqu'un, j'accepte de porter, je pense, je vis les choses comme un exercice spirituel, et je mortifie le désir spontané humain qu'on a de dire à la personne ce que l'on a calculé que ce serait le mieux pour elle, parce que on a tellement d'expérience et de savoir que ce serait bien d'en faire bénéficier les autres. Voilà. Donc, on laisse tomber ça et puis on vit le vrai combat dans le dialogue. Et plus on a de connaissances, plus de fait, humainement, on serait tenté de croire que on peut mieux savoir que l'autre ce qu'il doit faire, et plus il faut s'humilier, comme dit l'Écriture, plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Se vider de tout son savoir. Pour se rendre vraiment disponible aux lumières que Dieu nous donnera dans le moment présent pour l'autre. Ce n'est pas vous qui parlerez, hein. Ne cherchez pas comment parler ni que dire, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint qui parlera en vous, précisément cet Esprit Saint sans lequel il n'y a aucune vérité, aucune vraie vérité, si je puis dire, c'est-à-dire aucune vision réelle des choses qui puisse éclairer l'autre. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.